Chapitre 12. Le couvent que j'ai visité depuis avec Salus ne consistait plus qu'en une grande masure basse, percée de 7 ou 8 fenêtres à plein cintre, grillée de fer, qu'un grand mur qui n'ouvrait que par une petite porte empêchait d'apercevoir de la rue. Derrière cette aile dégradée de l'ancien monastère, on voyait un monceau de ruines, recouvertes à demi de végétation pariétaire, quelques murs encore debout percés à jour, et de grandes fenêtres sans châssis par lesquelles on voyait le ciel. Un jardin presque inculte montait derrière ces ruines du couvent démoli vers les remparts par une large allée, autrefois pavée, maintenant tapissée de hautes herbes sèches. Sous les murs même, une autre allée transversale et presque toujours à l'ombre serpentait en suivant la courbe des bastions. Il y avait, aux deux extrémités, une statue de sainte, verdie par l'humidité des lierres et des mousses de la muraille. C'était la promenade habituelle des religieuses et des jeunes recluses de ce couvent ruiné. En descendant vers la rue, on apercevait un long cloître extérieur dont le toit en terrasse portait sur de petites colonnes de marbre blanc. Ce cloître servait d'avenue à une petite chapelle de belles pierres jaunes comme celle de Saint-Pierre de Rome. Deux anges de marbre noir à demi couchés sur l'entablement du portail et se tendant les bras comme pour s'aider à porter un fardeau unissaient leurs mains pour élever un calice. Les porte-fenêtres des cellules des religieuses et les cellules des deux élèves plus âgés ouvraient sur la terrasse fermée par le toit plat de ce cloître. Une statue de la Vierge, tenant son enfant comme pour l'allaiter, surmontait, sous le cloître même, une fontaine alimentée par une dérivation de l'immense chute de l'Aquapolina, et qui, murmurant jour et nuit sous les arcades, remplissait cette solitude du seul bruit de vie qu'on entendit dans ce silence de tous les vivants. Tel était le monastère habité par les deux amis.